Hermine Gilquin, deuxième partie. Chapitre 16. Un jour, Hermine sortait du logis pour gagner la campagne, où elle trouvait un apaisement à regarder le ciel, la terre et la mer, où elle respirait librement à l'écart des bêtes humaines qui la tourmentaient. Comme elle passait le long de la grange, ses regards montèrent vers le grenier. C'était là que le petit Jean s'était pendu pour elle. C'était lui qui avait donné le signal des malheurs d'Hermine. Elle n'était jamais montée à ce grenier, devenu un endroit maudit depuis le jour tragique. Elle s'arrêta, songeant à cette catastrophe. Puis elle voulut voir la place lugubre où avait commencé à se jouer sa destinée. Une échelle était appliquée à la muraille. Elle monta doucement, s'arrêtant à chaque échelon pour reprendre haleine. Lorsqu'elle fut au faîte et qu'elle entra, son cœur battait violemment. Elle était pâle et froide. Dans une solive du plafond, un clou était fixé, où s'accrochait une grande poulie servant à soulever les bottes de paille et de foin. C'était de ce clou que Jean s'était servi pour quitter la vie. Hermine s'assit sur le foin, se perdit aux vagues de sa songerie. Elle pensa, pour la première fois, que si elle avait épousé Jean, elle ne serait pas dans l'état affreux où elle se trouvait. C'était un bon ouvrier et un brave et gentil garçon. Elle ne se souvenait pas de lui, mais elle le créa soudain avec précision, le devina tel qu'il était, et le pleura. Ses larmes silencieuses devinrent des sanglots convulsifs, et elle se sentit l'âme soulagée. Quand elle redescendit, encore tremblante de son émotion, elle n'était plus la même. Une pensée nouvelle était entrée dans sa vie. Désormais, elle s'ennuya moins. La nature lui parut moins triste, la vie moins désespérée. Elle avait trouvé un but à ses rêveries, une occupation à son cœur désœuvré. Faire revivre en elle celui qui était mort pour elle, pleurer sa disparition, chérir son souvenir. Peu à peu, cette illusion de son esprit devint la réalité de son existence. Son être intérieur se transforma. Elle, qui n'avait jamais aimé, sentit tout à coup son cœur battre d'amour. Elle aima un être pur et mystérieux, un mort. Souvent, presque chaque jour, elle remonta au funèbre grenier, animée maintenant pour elle de tous les aspects du sort qui aurait pu être le sien. Son imagination refaisait sa vie. Elle épousait Jean, ils avaient de beaux et charmants enfants. La ferme restait semblable à ce qu'elle était du temps de son cher père, et même elle se développait, devenait le décor du bonheur d'une famille. Le domaine, riche et prospère, offrait le déroulement continu, régulier, de la beauté des travaux et des saisons, avec les parures variées des champs. L'heureuse vie des animaux bien traités, la surveillance d'un doux maître, la bonté d'une mère inquiète et prévenante. Oh oui, c'était là le bonheur, et cela ressemblait au conte dont on avait bercé son enfance. Pourquoi la vie était-elle venue tuer ce beau rêve? Chapitre 17. Peu à peu, Hermine souhaita mieux connaître cette vie possible, qui s'était enfuie loin d'elle alors qu'elle était ignorante du présent autant que de l'avenir. Elle voulut savoir quelque chose de l'existence de Jean avant son entrée à la ferme des Gilquin. Elle se mit en tête de revivre ses jours qui avaient été interrompus par la cruelle souffrance d'aimer sans espoir. Elle se fit alors subtile et rusée pour obtenir des uns et des autres, sans éveiller l'attention, des renseignements sur Jean, sur les personnes qu'il avait connues, sur les parents qui pouvaient lui avoir survécu. Ce fut tout d'abord en pure perte. Il y avait déjà, depuis le drame, plusieurs années qui étaient tombées à l'abîme de l'oubli. Tout ce qu'elle cherchait était du passé mort, enterré dans l'immense fosse commune de l'éternité, sous la terre indifférente qui recouvre tous nos espoirs, tous nos sentiments, tous nos actes. Tout ce qui a été pendant un moment et qui ne sera jamais plus. À peine ici ou là se souvenait-on du jeune homme, et encore, c'était plutôt la catastrophe de sa disparition, de sa mort sinistre à la ferme qui était restée dans le souvenir. De lui, on ne savait presque plus rien. « Oh, l'été un grand !» disaient les uns. « Qu'avait l'air bête triste !»« Oh, l'été un petit !» affirmaient les autres. « Qu'était très jougué, raide plaisant !» Il ne pouvait être à la fois grand et petit, mais on avait pu le voir triste et gai tour à tour. « Il y avait des beaux yeux bleus » disait-on encore. « Un peu noir !» rectifiait de mieux informé. Hermine apprit pourtant que Jean allait parfois visiter le père Bazoge, qui avait vécu avec une femme du village, de bonne humeur et de mœurs légères, surnommée la Guillerette. Le père Bazoge était mort depuis un an. Hermine se rendit donc chez Geneviève, dite la Guillerette, qui vivait maintenant avec le père Nallier. Elle lui demanda si elle se souvenait du pauvre enfant que l'on avait trouvé pendu à une poutre du grenier des Gilquins. Le père Bazoge était parrain d'un frère à Jean, et si ma mémoire ne me fait point défaut, Jean était du village de La Roche. « Oh, l'est tout ce que je puis vous dire !» répondit l'interrogé. Hermine remercia la Guillerette et retourna chez elle. Toute la nuit, les yeux fermés, ne dormant pas, elle songea à ce village de La Roche où était né Jean, où il avait joué, où il avait été à l'école, où il y avait peut-être encore des gens qu'il avait connus, des parents même, qui sait. Chapitre 18. Le lendemain, après le départ de tout le monde pour les champs, à pointe d'aube, elle partit aussi, suivant les sentiers, foulant les herbes fraîches et emperlée de la rosée de la nuit. Elle traversa la plaine illuminée de la lueur du soleil levant, entra dans le bois où les oiseaux réveillés chantaient à plein gosier parmi les feuilles vertes, parvint au sommet de la colline. De là, elle aperçut le clocher et les quelques habitations du hameau qui étaient encore en partie enveloppées par les derniers voiles bleus de la nuit. Le clocher et quelques toits de maison émergeaient seuls de l'ombre, doucement éclairés de rose par le premier feu du jour. La course était encore longue. Hermine descendit la colline, s'engagea dans le vallon, suivit le cours sinueux d'un ruisseau qui chantait sur les pierres. La roche était de l'autre côté, à mi-hauteur d'une colline plus basse que celle-là qui venait d'être gravie par Hermine. La voyageuse passa le ruisseau sur de larges dalles contre lesquelles écumait l'eau vive. Puis elle prit le sentier dessiné sur la pente aride, et peu à peu, les premières maisons de la roche se rapprochèrent d'elle. C'était le plein de la matinée lorsqu'elle parvint à l'unique rue du hameau. Le soleil de 9 heures était haut déjà. Le village, raviné et pierreux, commençait à flamboyer. Les maisons blanches à toits rouges plats, bâties en dégringolade, les petits escaliers aux marches massives et disjointes par lesquelles on accédait aux portes des maisons, les pavés d'un trottoir inégal, les pierres qui couvraient le sol et donnaient à la rue abrupte l'aspect d'un lit de torrent desséché, tout cela était déjà sec, brûlant, hostile. Hermine, fatiguée, en sueur, s'arrêta un instant devant la rue déserte. Elle se souvint vaguement d'être venue une fois là avec son père. Il était à cheval, il avait placé sa petite fille devant lui sur des sacs, et elle se rappela tout à coup que la bête qui les portait avait monté la côte en soufflant, avait buté sur ses pierres par un soleil semblable. Elle s'accota à l'ombre d'un recoin de muraille, essaya de revivre davantage cette image du passé qui était venue danser devant ses yeux, dans le mirage de cette matinée incandescente. Elle revit le cheval blanc, elle réentendit la voix de son père, qui lui parut altérée et lointaine, comme une voix venue de la tombe. Elle crut sentir une main de spectre qui tenait par la taille la petite fille d'autrefois. Cela ne dura qu'un instant. L'image de jadis s'effaça. Il n'y avait là qu'une femme fanée qui était la petite fille d'autrefois, une femme abandonnée et muette qui s'appuyait à un vieux mur ruiné par le temps. Et ce vieux mur n'entendait et ne voyait rien, ne se rappelait de rien, n'avait aucune consolation à offrir à celle qui demandait aux choses de se souvenir, et qui ne trouvait en elle que le morne aspect de la vieillesse qui tombe à la mort. Hermine rouvrit les yeux, qu'elle avait fermés pour retrouver son père et son cheval blanc, et pour se retrouver elle-même. Elle revit le village sec et terrible, resta pendant un instant immobile sous la double et effrayante impression de la solitude et du silence. Un grillon fit entendre son bruit strident. Il y avait donc un peu de vie dans cette région brûlée où tout semblait anéanti. Elle attendit encore. Une porte s'ouvrit, une femme parut, qui dévisagea Hermine avec surprise. Celle-ci dit le motif de sa présence. « Y a-t-il encore dans le pays des parents du petit Jean qui est mort chez les Gilquin ?» Elle n'osa pas préciser davantage, mais la paysanne, sur sa question, l'avait définitivement reconnue, et elle le fit savoir avant toute chose. « Tiens, mais c'est vous, la demoiselle des Gilquin, qui êtes mariée à Jarry ?» s'exclama-t-elle. Hermine fit oui de la tête. « Et vous venez promener par chez nous, de ce temps chaud-là ?» continua la femme. « Vous me connaissez donc ?» demanda Hermine. « Je vous connais de vous avoir vu dévaler. Et où c'est-il que vous allez ainsi ?» Hermine répéta qu'elle cherchait quelqu'un de la famille du petit Jean qui était mort à la ferme des Gilquin. Elle dit l'année, le jour, un 1er janvier. C'était inoubliable. La femme, en effet, se rappelait. « Mais ils sont tous morts, » dit-elle, « ou partis du pays. Et il n'y a plus qu'une vieille grand-mère, Olympe, qui est encore chez nous. Elle a enterré tout son monde. » Et elle vit d'une petite rente que lui fait une nièce qui habite Paris, je crois ben. Dame, elle ne travaille plus guère. Pourtant, à la moisson, elle va encore se louer et fait sa part comme les autres. » La causeuse s'arrêta. Pour repartir, son regard bien appuyé sur les tristes yeux d'Hermine. « Vous venez sans doute lui apporter quelque douceur, » ajouta-t-elle d'un air entendu. « Vous lui devez ben ça, c'est vrai. Oh, les pas moins bien de votre part, puisque vous êtes toujours riche et qu'elle est toujours pauvre. » Hermine n'osa dire oui, car elle pense subitement qu'elle n'a pas une pièce d'argent sur elle, qu'elle n'a même pas songé à emporter quelque chose de la ferme. Elle eut honte d'aller visiter cette vieille femme sans offrir le moindre présent à son âge et à son malheur. Néanmoins, elle se résolut à faire sa visite et se dirigea vers l'endroit que son interlocutrice lui indiqua. C'était au détour d'un petit chemin, dans la première ruelle à gauche, la maison qui faisait le coin. Il y avait trois petites marches à monter. La porte était blanche. Et ses renseignements furent accompagnés de toutes les bénédictions à la bonne dame et de toutes les salutations. Le cœur d'Hermine battait bien fort, et elle se sentait bien émue lorsqu'elle monta les trois petites marches de pierre et qu'elle s'arrêta devant la porte blanche qui fermait la maison comme la pierre d'un tombeau. Elle frappa. Chapitre 19. Après avoir frappé, elle se sentit défaillir. Le silence lui fit peur. et il lui sembla que tout brûlait dans la chaleur de brasier qui tombait du soleil. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit, en s'agrippant à la muraille si chaude qu'elle en eut à la main une sensation de brûlure. Elle espéra qu'il n'y avait personne, qu'elle n'entendrait aucun pas, aucune voix, que personne ne viendrait lui ouvrir, et qu'elle pourrait s'en aller comme elle était venue. Elle écouta, son oreille près de la porte. Elle n'entendit que le tic-tac lent et régulier d'une horloge. Sûrement la grand-mère était sortie, et peut-être ne rentrerait-elle pas de la journée. Mieux valait, après tout, repartir sans l'avoir vue. Que lui dirait-elle si elle la voyait? Elle n'y avait pas encore songé. Oserait-elle seulement aborder le sujet de sa visite? Depuis tant d'années, la plaie douloureuse avait dû peu à peu se cicatriser. Mais qui sait? Peut-être sa parole allait-elle remettre à nu une marque indélébile et raviver cette ancienne douleur. Comment serait-elle reçue? Bien ou mal? Devait-elle se nommer ou rester l'étrangère? Telles étaient les pensées qui tournèrent pendant une seconde dans sa tête en feu, cherchant une issue. Hermine avait agi ce jour-là sous le coup d'une impulsion plus forte que sa volonté habituelle. De nature, elle était timide et passive. Elle était née pour vivre la vie telle qu'elle l'avait trouvée auprès de ses parents et de ceux qui l'entouraient. En cela, elle était semblable à beaucoup de femmes qui resteraient volontiers des petites filles, obéissantes aux habitudes, aux occupations toutes faites, aux événements prévus. Celle-ci, depuis qu'elle avait subi la bousculade du sort, ne reconnaissait plus la vie, allait un peu devant elle comme dans un songe. Elle regrettait maintenant d'être venue. Comment se trouvait-elle dans ce village? Que voulait-elle enfin de cette vieille femme? Oui, elle allait repartir, redescendre la rue, et elle ne s'arrêterait qu'au bas de la pente, à l'ombre de la colline, de l'autre côté du ruisseau. Elle s'assoirait sur une pierre, elle resterait là un moment, tremperait ses mains dans l'eau courante, boirait comme un animal qui a soif, rafraîchirait ses tempes. Oui, elle allait faire cela. On ne vint pas ouvrir, et elle n'osa pas frapper une seconde fois. Décidément, elle repartirait. Elle quitta le seuil, ne sachant plus si elle était heureuse ou non de n'avoir pas vu la grand-mère de Jean. Quand elle eut posé le pied sur le sol caillouteux de la ruelle, elle resta encore à la même place, hésitante pendant quelques secondes, se demandant s'il fallait rester ou partir. Elle vit alors, à l'angle des deux chemins, la femme qui l'avait renseignée et qui l'attendait avec curiosité. « Il n'y a donc personne chez Olympe? Sa porte est donc fermée ?» demanda la paysanne. « Je ne sais pas, » répondit un peu craintivement Hermine. « J'ai frappé et personne ne m'a répondu. » « Faut pas frapper. Elle a l'oreille dure. Faut entrer. La porte doit être ouverte. » Et tout en disant ces mots, la femme fit les quelques pas nécessaires, monta, tourna le loquet. La porte s'ouvrit. « Je savais ben, » dit victorieusement la paysanne. « Olympe sort si peu, pas même pour aller à la messe. » Au même moment, pour savoir qui ouvrait la porte sans entrer, Olympe vint elle-même sur le seuil, reconnut sa voisine. « Qu'est-ce qu'il y a donc que vous ne pouvez pas entrer ?» dit la vieille femme. « C'est de la visite pour vous, Olympe. Madame s'en allait. C'est moi qui viens de la retenir. » Et la femme s'en fut, pas très loin, pour voir au moins le départ d'Hermine. Au village, tout est muet. Tout est immobile, mais il y a pourtant des yeux qui voient par la vitre close, à travers une guipure de rideau, des yeux ardents et patients qui resteront là toute la journée s'il le faut, pour voir passer une silhouette, pour surprendre un geste, une grimace, ou pour ne rien voir du tout. Combien Dieu avait ainsi vu Hermine à travers les carreaux et les murailles, dans ce village qui paraissait désert. Hermine entra chez la vieille Olympe. Chapitre 20. L'unique chambre servait de tout, de chambre à coucher, de salle à manger, de cuisine. L'ordre y était parfait. On sentait là une existence installée depuis un siècle et qui pouvait rester ainsi pendant un autre siècle, et même plusieurs, pendant toute l'éternité. Le haut lit à colonnes occupait une encoignure, rustique et majestueux à la fois, sous ses rideaux de cretonne rouge à grand ramage jaune, avec sa couette de plumes et son édredon rouge bombé aussi haut qu'il se pouvait, tout gonflé aussi de fin duvet. La vieille horloge, dans sa gaine en forme de cercueil, faisait entendre le bruit monotone et rythmé de la vie qui passe, du temps qui s'enfuit, avec le cortège sans fin qui l'accompagne, des minutes et des heures, des jours et des années. Le grand balancier de cuivre poli passait et repassait, brillait comme un soleil, s'en allait dans la nuit. Hermine vit cela rapidement, comme à la lueur d'un éclair. Elle vit aussi la cruche et la cuillère vendéenne, la buis et la coussotte. Elle vit la vieille commode au marbre gris, aux poignées de cuivre, un coussin de velours rouge sur lequel se desséchait et jaunissait un bouquet de fleurs d'oranger abrité d'un globe de verre, des tasses à café en porcelaine blanche à filets d'or, symétriquement rangées sur un plateau de verre, une corbeille de mousse piquée de fleurs tricotées à la laine, des roses, des pensées, des marguerites. Tout sentait l'ancien temps, la vie puérile, le goût enfantin et naïf, l'existence casanière vécue à la même place parmi les reliques de la jeunesse et du mariage. Ici, un cœur ignorant s'était épanoui, avait fleuri, s'était racorni, et s'en allait maintenant en poussière, comme tout le reste. En même temps qu'elle regardait l'humble mobilier, Hermine regardait aussi la vieille femme qui se tenait devant elle, appuyée sur un bâton. De petite taille, assez voûtée, obligée de lever la tête pour voir le visage de la visiteuse. La vieille Olympe avait des yeux noirs encore vifs, des joues creuses, mais fraîches, marquées de rouge comme des pommes d'api. Elle ressemblait à une petite fée carabosse, avec sa bouche sans dents, aux lèvres rentrées, presque invisibles. Son long menton en galoche, son nez fort, recourbé comme le bec de l'aigle. Elle était proprement vêtue, d'une jupe d'indienne, d'une camisole de coton, coiffée d'un bonnet blanc, au bord duquel se voyait un peu de cheveux gris bien lissés. La vieille figure et les yeux vifs se levèrent donc vers Hermine, et d'une voix fine et cassée prononça « Je ne vous connais point. Vous n'êtes point d'ici. » Chapitre 21. Hermine ne voulut pas répondre par un mensonge ou une banalité, et sans préambule, comme une personne fatiguée physiquement et moralement, elle alla droit au but. « Je suis la fille des Gilquin. » Puis elle se tut, attendant l'effet de ses paroles. Il y eut un instant de silence. Hermine reprit, gênée par le mutisme de la vieille Olympe. « Pardonnez-moi, j'ai voulu vous voir, mais j'ai eu peut-être tort de venir après si longtemps. » La grand-mère la regardait toujours sans proférer une parole. Hermine se sentit envahir par une envie de pleurer, comme au jour où elle était petite fille. Des sanglots qui ne sortaient pas faisaient se contracter douloureusement sa gorge. Elle était là, debout, se tortillant les doigts, n'osant lever les yeux sur la vieille femme, dans l'attitude d'une véritable coupable. La vieille Olympe, alors, avança vers Hermine ses yeux vifs et son nez en bec d'aigle. « Vous êtes la fille des Gilquin ? Eh bien, quoi que vous me voulez !» Hermine fut accablée. ne sut plus définitivement quelle contenance prendre, quelle parole prononcer. La vieille femme ne comprenait-elle pas? Ou bien y avait-il en son cœur une vieille haine qui venait de se réveiller brusquement? Voulait-elle dire à l'étrangère qu'elle n'était pas à sa place chez la grand-mère du petit Jean? « Je viens vous voir en souvenir de Jean !» dit tout à coup Hermine avec courage. « Ah, mon petit gars qui était à la ferme au Gilquin! Ah, vous êtes la fille au Gilquin !» Elle répéta cela plusieurs fois, puis s'expliqua avec volubilité. « Ils sont donc des sauvages chez vous, qui ne m'ont pas seulement donné une pauvre petite indemnité pour me dédommager de mon malheur. J'en commençais à gagner. Il me venait en aide. Depuis l'âge de 6 ans, je l'avais eu à ma charge. Que Dieu ait son âme. Le pauvre fou. Il m'en a fait avoir des tristesses. Monsieur le curé lui a refusé l'office des morts. Il a été enterré comme une bête. » Hermine n'objecta pas que son père était mort quelques jours après Jean. Elle essaya de pénétrer dans le cœur de la vieille paysanne. « Ne vous chagrinez pas, bonne maman. Il a eu mieux que les prières de tous les prêtres du monde entier. Il a eu vos larmes et les miennes. » La fille des Gilquin s'approcha, voulut prendre la main sèche et ridée de la grand-mère de Jean. Mais la vieille ne sembla ni l'entendre ni la voir. S'en alla vers sa haute cheminée et ses ustensiles, se mit à frotter et à ranger. Hermine était définitivement vaincue. Elle croyait, en venant chez la vieille femme, trouver un chagrin à consoler, une peine qui aurait répondu à sa peine. Elle croyait aussi qu'elle allait tout savoir de l'être qu'elle avait ignoré et qui était mort pour elle. Cet être, sans doute, était toujours vivant dans le souvenir de sa grand-mère. Elle espérait entendre la voix douce et blessée de la douleur inconsolée. Et c'était la voix aigre du dépit et de l'intérêt qui avait répondu. Olympe ne faisait plus attention à la visiteuse, ne lui demanda même pas si elle était fatiguée, si elle voulait s'asseoir, ne lui offrit pas l'écuelle d'eau que l'on donne aux passants de la route. Et cette aumône de l'eau, Hermine n'osa pas la réclamer, malgré la soif qui lui brûlait la gorge et les lèvres. Pas plus qu'elle n'osa se laisser tomber sur la chaise qui était auprès d'elle, malgré la fatigue qui lui faisait trembler les jambes. « Je m'en vais, » dit-elle. « La route est longue pour retourner chez moi. Mais tout de même, avant, je voudrais passer au cimetière. »« C'est pas la peine, » maugréa la vieille paysanne. « Jean était dans la fosse commune. » Et il y a beau temps que d'autres lui ont pris sa place. Adieu donc, dit Hermine, de plus en plus terrifiée par l'indifférence de la grand-mère. Elle se dirigea vers la porte, crut entendre qu'on la rappelait, se retourna. La vieille parlait, mais parlait toute seule, faisant ses réflexions à haute voix. Pas seulement m'avoir envoyé un caraco noir pour porter le deuil. « Ça devrait finir comme des chiens, ces Richards. Ah, ils paieront tout ça un jour. Le bon Dieu leur fera ben aussi à eux leur part de malheur. » Hermine sortit, trouva la force de fermer la porte avec douceur. Elle n'entendit plus que le murmure de la voix agressive et le tic-tac solennel et inexorable de l'horloge. Au dehors, sous le feu du soleil, elle resta pendant un instant hébétée, avec un poids lourd sur l'esprit et sur le cœur. Puis elle se remit en route. Elle eut de la peine à avancer, à soulever de terre ses pieds qui lui semblèrent de plomb. Elle revit celle qui l'avait renseignée, toujours postée au dehors de la ruelle. « Eh bé, vous avez vu la mère Olympe? Vous avez pu lui causer ?»« Je vous remercie. » dit Hermine, confuse sous ce regard investigateur. Elle eut l'idée de demander à cette femme la chaise et l'écuelle d'eau qu'elle n'avait pas trouvée chez Olympe. mais elle prévit des questions et des questions à n'en plus finir, et puis elle n'osa pas plus que tout à l'heure. Elle commença donc à descendre le chemin raboteux qu'elle avait gravi tout à l'heure, comme un calvaire. Presque tout de suite, elle s'arrêta. Les derniers mots échangés avec la grand-mère lui revinrent, et elle pria la paysanne de lui indiquer le chemin du cimetière. « Hors du village, quand vous serez arrivé à la dernière maison, vous virerez à votre gauche. Il y a un mur, c'est là. » Hermine remercia encore et partit cette fois, d'un pas automatique, sans retourner la tête vers la masure inhospitalière. Chapitre 22. Elle fut vite au bas du village. Sans trop savoir comment, elle avait descendu la pente rapide. Elle prit le chemin à gauche, comme il lui avait été dit, ne vit rien tout d'abord, puis découvrit le mur et le cimetière dans un repli du terrain, à flanc de colline. La porte, à claire-voie, de bois vermoulu, n'était pas fermée. Elle entra. C'était un petit cimetière de village, sans monuments, sans caveaux, sans colonnes funéraires. Quelques dalles, çà et là. Quelques autres pierres debout. Presque toutes rongées par le temps. Les inscriptions illisibles, envahies de mousse microscopique. Le reste du terrain planté de croix noires, à lettres et à larmes blanches. Des croix qui s'en allaient à la débandade, penchées en tous sens, pareilles à de petits êtres fantastiques, aux bras étendus, qui trébucheraient et qui imploreraient. Hermine lut au hasard des noms, des âges, des dates, puis elle parvint à un angle des murailles où étaient amoncelés des débris de croix, des couronnes pourries, des fleurs sèches, qui recouvraient sans doute des ossements et des poussières anonymes. C'était là, probablement, dans ce rebut, dans ce tas de fumier de la mort, que se trouvait ce qui restait de Jean. Hermine se laissa aller, mi-agenouillée, mi-assise, contre la muraille qui faisait à peine une ligne d'ombre sous le soleil du matin. Ce qui restait de Jean. Elle essaya de se figurer cette funèbre réalité. Elle évoqua une tête grimaçante, des orbites vides, des dents serrées et ricanantes. Mais la vision s'effaça d'elle-même, et Hermine ne vit plus que l'air embrasé et les herbes du cimetière. Ces herbes folles qui avaient envahi les pierres, les balustrades et les croix brûlaient et se tordaient sous la chaleur. Le bourdonnement des insectes emplissait l'atmosphère ardente et dorée. Des abeilles se blottissaient dans le calice des fleurs de mauve. Des mouches de toutes les couleurs passaient et repassaient à brusques coups d'ailes. Des lézards parurent, se risquèrent tout près d'Hermine immobile. Une belle couleuvre ondula parmi les tombes. Où était Jean parmi tout cela? Où flottait le spectre léger de cet enfant, dans cette nature qui recommence sans cesse le même travail, avec les mêmes aspects, les mêmes formes, à croire que rien n'est changé et ne changera jamais dans l'immense univers. Hermine se releva, marcha dans l'herbe des morts, environnée du murmure exaspéré des insectes. Du seuil, elle regarda encore. Emporta avec elle le souvenir de ce jardin bourdonnant sous le ciel bleu. Chapitre 23. Le chemin retrouvé, elle descendit presque en courant le flanc du ravin, passa le ruisseau sur les pierres plates, se trouva de l'autre côté à l'ombre, se laissa gagner par la fraîcheur de l'eau et l'apaisement de la lumière. Elle ne put y tenir, but l'eau limpide au creux de sa main, mangea un morceau de pain qu'elle avait dans sa poche, but encore à longs traits, puis s'assit sur une pierre, regarda passer le ruisseau. Combien de temps resta-t-elle, à demi pensante, à demi endormie? Elle n'aurait pu le dire. Elle avait la sensation qu'elle était abandonnée, seule au monde, repoussée de partout. Elle revoyait la vieille à profil d'aigle qui l'avait si durement éconduite. Elle frissonnait en songeant que tout à l'heure, il lui faudrait retrouver François Jarry, qui, sans doute, l'interrogerait brutalement et peut-être la battrait. Elle ne trouverait pas de protection auprès de sa mère, de plus en plus abattue et triste, qui ne quittait plus sa chambre, ne savait plus rien de ce qui se passait dans la ferme. Oui, Hermine était bien seule. Elle sentit à ce moment une caresse sur sa main, la caresse d'une gueule haletante et d'une langue de chien. Elle ouvrit les yeux et sourit à Pyram, le gardien des troupeaux de son père, un vieux chien de berger, gris de poils, haut sur pattes, les flancs maigres, qui courait sans cesse autour de la maison, toujours inquiet de la brebis égarée, de l'agneau retardataire. Sa tâche du matin achevée, il était parti à la recherche d'Hermine, et il lui frottait maintenant les bras et les jambes de ses pattes rudes pour lui dire de s'en venir avec lui. Et il approchait du triste visage de femme sa bonne gueule compatissante et expressive, ses yeux jaunes comme de l'or. Hermine, malgré l'état de navrement où elle se trouvait, répondit gentiment à l'être fraternel qui surgissait ainsi brusquement devant elle. Elle le caressa à son tour, lui gratta le front, lui prit la patte, lui parla doucement. Elle se leva. L'animal fit autour d'elle des bonds désordonnés et joyeux. Hermine lui dit de boire. Il se précipita, lapa l'eau comme s'il voulait dessécher le ruisseau, puis revint vers sa maîtresse qui lui donna sa dernière croûte de pain, et tous deux enfin partirent, refirent le chemin qu'Hermine avait fait seule à l'aube. Pyram courait devant, revenait, entourait Hermine de cercles, sautait, se multipliait, pour hâter le retour au bercail de la brebis perdue. L'innocente bête ne se doutait pas qu'elle ramenait cette brebis vers un maître aussi dur et inexorable qu'un boucher. Mais il en est toujours ainsi du chien et de la brebis, en marche vers l'abattoir, l'un qui encourage, l'autre qui accepte, tous deux ignorants du destin. Chapitre 24. Il n'arriva pourtant rien à Hermine. La maison était déserte, les travailleurs tous aux champs. La jeune femme était partie avec crainte, impatience, et un vague espoir d'une éclaircie dans sa vie. Elle rentra navrée et désenchantée. Elle avait fait ses réflexions en chemin, sur la route brûlante. Ainsi, tout ce qu'elle essayait tournait contre elle. Elle ne pouvait même obtenir de la vie cette satisfaction posthume qu'elle avait essayé de trouver auprès de la vieille grand-mère. Si celle-ci avait été une charmante bonne femme, comme il y en a, dit-on, Hermine aurait pu reprendre courage auprès d'elle. Elle avait espéré voir, dans l'ombre de la chaumière, un doux visage fané, avec des yeux purs et tristes, et entendre une voix tranquille et résignée qui l'aurait encouragée à supporter le sort. Quelle précieuse confidente cette vieille femme aurait pu être pour elle! Chez les simples, chez les ignorants de la science du monde, il peut y avoir de grands cœurs savants de la vie. Puisque nul être ne peut échapper à la loi de la souffrance, au moins ceux qui ont fait leur temps et payé leur tribut peuvent-ils consoler ceux qui commencent seulement à apprendre le poids des peines et la cruauté des déceptions? La jeune femme, qui était partie instinctivement vers la grand-mère de Jean, avec le désir anxieux de voir briller dans la nuit du passé quelques traces de la vie du disparu, s'avouait bien au retour qu'elle avait aussi voulu se créer un refuge hors de la maison des Gilquin, si aimée d'elle, qui était devenue la maison de Jarry. Ce petit village de La Roche, d'où elle revenait déçue, c'était un autre pays que le sien, un aspect dont elle n'avait pas l'habitude, un asile possible pour les jours où la vie lui aurait été trop pesante chez elle. Puisque personne ne s'occupait d'elle, puisqu'elle était mise de côté par l'insolence de Jarry comme une chose inutile, elle aurait donc pu, aux heures où tous les gens de la ferme travaillaient dehors, faire la course qu'elle avait faite aujourd'hui, grimper la pente rocheuse, frapper à la porte de la petite maisonnette qui ressemblait à un logis des contes de fées. Et c'était une fée qui lui aurait ouvert la porte, non pas la vieille Olympe qu'elle venait de voir, mais l'autre vieille Olympe qu'elle avait rêvée, qu'elle rêvait encore. Celle-ci l'aurait traitée en petite personne sacrée, parce qu'elle aurait honoré et choyé en elle le mystérieux souvenir de Jean. Entre elles deux, il y aurait eu l'invisible fantôme. Elles auraient senti sa présence. Elles auraient parlé avec l'idée qu'il pouvait les écouter. Elles auraient gardé le silence avec le désir frémissant de sa voix de l'autre monde. Hermine, tout en imaginant et pensant cela, faisait sur elle-même une découverte. C'est qu'elle était une espèce de possédée de l'illusion quand même. En revenant de chez la grand-mère, qu'elle avait vue telle qu'elle était, bornée et intéressée, elle recommençait à inventer la réalité qu'elle avait désirée, et qu'elle savait si bien fausse maintenant. Elle s'en voulut de sa faiblesse d'esprit et de son goût pour le chimérique. Avant même d'embrasser sa mère, elle s'enfuit au grenier, s'y cacha dans le coin le plus obscur, versa des pleurs en évoquant tant de souvenirs doux et tristes. Fatiguée, elle s'endormit au creux du foin, rêva de la grand-mère qu'elle était allée chercher si loin, inutilement. Elle se voyait, dans ce rêve, refaisant sa course du matin, mais cette fois, elle apportait à la vieille Olympe de l'argent, beaucoup d'argent, de quoi remplir les poches de son tablier, et de belles étoffes pour se faire des robes, et des provisions de toutes sortes pour son petit ménage. Et la vieille, alors, était heureuse, s'approchait de la visiteuse avec un visage ravi, des yeux hilares, l'embrassait, la choyait, la cajolait, et la fiançait à Jean, qui accourait, vêtu de son linceul, du petit cimetière brûlé de soleil. « Hé, Madame Hermine! Madame Hermine! Où êtes-vous ?» On appelait en bas. La voix se fit plus pressante. « Venez vite! Votre mère va passer !» Hermine, réveillée en sursaut, vint à l'appel de la servante, descendit l'échelle, se hâta vers la maison, vint auprès de sa mère. Chapitre 25. Après tant de désastres, Madame Gilquin n'avait plus accepté la vie que pour attendre la mort. Étrangère dans sa maison même, trop faible pour résister au violent personnage qu'elle avait, comme Hermine, accepté pour la sécurité et la durée des biens amassés par le père Gilquin, elle ne voyait pas le moyen de détruire le mal qu'elle avait préparé, sans le savoir, de ses mains maternelles. Le violent Jarry était aussi un madré. Il s'était fait reconnaître un avoir au moment du mariage. Comment séparer ce qui avait été ainsi réuni? C'était un problème redoutable à aborder, et presque insoluble pour une paysanne comme Madame Gilquin, respectueuse du travail et de la propriété de son mari. Elle ne pouvait se faire à l'idée de voir dépecer ce magnifique domaine dont la création avait coûté tant de travaux, de peines, de soucis. Cela représentait des jours et des jours de labeur, des fragments de terre acquis à force de volonté, de persévérance, ajoutés les uns aux autres pour former ce tout qui était la ferme des Gilquin. Encore une fois, comment se résoudre à disjoindre ce qui avait été ainsi joint? Quelle aventure! Quelle catastrophe! Madame Gilquin mourait de sa perplexité et de son impuissance. Aussi, bien qu'elle souffrît cruellement dans son sentiment de maternité qui était très vif en elle, bien qu'elle eût voulu rester la compagne de chaîne de sa fille pour l'aider à porter le lourd boulet du mariage qu'elle avait rivé aux pieds de cette douce enfant, Madame Gilquin se laissa crouler à la première atteinte de la maladie. Elle accepta bien les soins et les remèdes d'Hermine, mais il y avait en elle quelque chose qui se refusait à vivre davantage. Autour d'elle, et Hermine comme tout le monde, on s'était habitué à son état. On ne devinait pas qu'elle était blessée au plus profond de l'être, qu'elle était minée par un mal moral plutôt aggravé en mal physique, et que l'atmosphère où elle respirait lui était mortelle. Elle ne vivait plus, pour ainsi dire, toujours dans l'attente d'une catastrophe, et n'osant confier à sa fille ses prévisions et ses frayeurs. Il était bien impossible de déchiffrer cette énigme de souffrance cachée. On la voyait mieux un jour, plus mal le lendemain, pour la voir renaître encore. Mais on ne s'apercevait pas que ses forces allaient en décroissant, qu'elle tombait à un état d'apathie, d'indifférence, où l'être est incapable de réaction. Les jours précédents, on avait cru la malade en voie de rétablissement. Elle avait pu quitter son lit pour son fauteuil, faire quelques pas dans la chambre, et Hermine s'était rassurée, s'était de nouveau laissée aller à son idée fixe. Ce fut ainsi qu'elle entreprit cette course au village de La Roche, et qu'elle revint pour ruminer sa déception dans le coin de grenier où elle passait ses heures libres. Elle sortit de là à l'appel de la servante pour voir mourir sa mère. C'était par hasard que la fille de ferme était entrée dans la chambre de la malade, l'avait trouvée inanimée dans son fauteuil. Hermine put ranimer sa mère, et celle-ci retrouva un reste de force pour prendre la tête de sa fille dans ses mains amaigries et pour lui dire en phrases entrecoupées « Vie du souvenir de ton enfance, que le présent ne soit plus qu'un instant pour toi. Console-toi de tout par la mémoire du passé. » Hélas, la fille de Madame Gilquin n'était que trop encline à vivre ainsi en arrière, et cette recommandation, bégayée par sa mère au moment suprême où elle allait entrer dans la nuit définitive, ne pouvait qu'enfoncer davantage cette charmante créature dans les ténèbres de l'inertie et de la résignation. L'enterrement eut lieu selon les rites habituels. Le curé vint chercher le corps, le mena à l'église, puis au cimetière. François Jarry prit juste le temps nécessaire pour la cérémonie. Il conduisit le cortège de deuil avec l'indifférente tenue de l'homme accomplissant une corvée. Après le repas qui suivit, où Hermine ne parut pas et que présida son mari, le maître retourna au champ avec ses serviteurs et le travail se fit comme de coutume, jusqu'à l'heure où la terre s'assombrit, où les animaux tournèrent la tête vers l'étable, où l'homme harassé revint au gîte, sa veste et son outil sur l'épaule. Chapitre 26. Après la mort de sa mère, Hermine n'attendait plus d'événements, acceptait d'avance la monotonie du sort contraire. Pendant quelque temps, quelques jours, on la laissa tranquille. Si mauvais que soient les gens, la mort leur impose une certaine attitude de respect. Malgré eux, ils marchent plus doucement, ils parlent plus bas dans la maison où un être pareil à eux a été frappé et emporté par quelqu'un que l'on ne voit ni entend, qui passe à travers les murs, qui vient à pas léger, quelqu'un de muet et inexorable, qui désigne sa victime sans lui rien dire, ni sans rien dire à personne. Autour d'Hermine, il y eut donc un peu de silence. Elle était frappée aussi, et sa personne en avait quelque chose de changé, qui éloignait d'elle, pour le moment, l'hostilité journalière. Les servantes évitaient de lui parler, la laissait à sa songerie, ou lui parlait pour le strict nécessaire, d'une voix contenue et discrète. François Jarry lui-même, si indifférent qu'il fût à la disparition de Madame Gilquin, évitait la rencontre d'Hermine, qui passait ses heures libres dans la chambre de sa défunte maman, et qui s'était reprise aux occupations intérieures de la maison, puisqu'on voulait bien respecter son deuil et son repos, et la laisser libre d'agir à sa guise et pour le mieux. À table, le lendemain, le surlendemain, on mangeait sans presque rien dire. François Jarry, épais, solide, brutalement accoudé, ses bras entourant son assiette, avalait voracement sa nourriture, buvait goulûment son vin blanc, sans lever les yeux sur sa femme. Le repas fini, il fermait son couteau, le mettait dans sa poche, se levait et s'en allait, s'en retournait à son labeur de bête farouche. Et tout le monde s'en allait aussi, sauf la servante qui desservait la table, et Hermine, qui l'aidait de sa douceur habituelle. Ses soins terminés, Hermine remontait à la chambre de sa mère, devenue la sienne, s'asseyait dans l'embrasure de la fenêtre, comme autrefois lorsqu'elle était enfant et jeune fille. Mais il n'y avait plus personne en face d'elle. Il y avait un fauteuil vide. Elle avait encore, tout près d'elle, bien d'autres témoins familiers de son existence, dans cette grande pièce rustique et bourgeoise où avaient vécu, où étaient morts son père et sa mère, et son grand-père et sa grand-mère, et d'autres avant eux. Le large lit en forme de bateau, abrité par des rideaux rouges. La table ronde en acajou à ornements de cuivre. La bergère, les fauteuils au velours rouge usé dont les bras se terminaient en tête de cygne. La petite bibliothèque, dont on ne voyait pas les livres, soigneusement abritée par de frêles rideaux de soie verte. La pendule à colonnette noire qui avait sonné tant d'heures paisibles et tant d'heures désastreuses. Les portraits, miniatures et photographies placés de chaque côté de la glace, sur le mur au-dessus de la cheminée. Hermine n'avait fait ajouter que son petit piano de jeune fille à ce mobilier vieillot et charmant. Mais elle n'avait pu se résoudre encore à réveiller les airs d'autrefois. Elle cousait, pensait, regardait au dehors, revoyait l'agitation habituelle de la basse-cour aux heures de fraîcheur et de mangeaille, le sommeil des chiens à l'ombre, les poules picorant sans cesse, les pigeons se rengorgeant et roucoulant sur le rebord de leur tour. Ses yeux allaient aussi à la fenêtre du grenier, l'endroit mystérieux où vivait son secret. Cette accalmie ne dura pas longtemps. Le charme funèbre laissé par la mort fut rompu par une colère de François Jarry, un coup de poing frappé sur la table, un mot violent à l'adresse d'Hermine. Peu à peu, les anciennes habitudes revinrent. Le même ouragan de fureur qu'auparavant passa sur le doux être qui ne demandait qu'à donner sa bonté à tous et qui n'aurait voulu en échange que les heures de solitude où sa pensée pouvait s'épanouir comme une fleur ignorée. Désormais, il lui redevint impossible de s'occuper de rien. Sa place de nouveau était prise partout. Le maître affichait son mépris, les servantes se gaussaient d'elle. La petite Zélie l'épiait, la regardait sournoisement, faisait peser sur elle l'affreuse inquisition de l'enfance perverse. Hermine était de trop dans la maison où elle était née. Elle commençait à comprendre son sort avec précision. Et si peu habituée qu'elle fût à prévoir son lendemain, elle se disait que sa vie ne pouvait durer ainsi, et qu'il lui fallait s'en aller. Mais où? Et comment? Cela, elle ne le savait pas encore avec précision. Chapitre 27. Une rencontre qu'elle fit acheva de lui donner à réfléchir. Il y avait dans le pays une fille sordide, une sorte de cheminot femelle dont personne ne savait plus le nom, quoiqu'elle fût d'un village assez proche, ni l'âge, quoiqu'elle fût jeune encore, et que l'on avait surnommée Katsou. Qui est Katsou? D'où lui vient son sobriquet? On ne sait pas. Ce que l'on sait vaguement, c'est qu'elle a eu, comme tout le monde, un père et une mère, des frères et des sœurs, que son père est mort, que sa mère buvait, que l'on entendait toujours crier et geindre lorsque l'on passait contre le mur de la chaumine où grouillait tout ce monde. Parfois, la porte s'ouvrait, la mégère montrait sa face tuméfiée et sale, ou les enfants venaient sur la route rire et pleurer, demander des sous aux passants. C'est de ce taudis, de ce vacarme et de cette misère qu'était sorti Katsu, un jour, pour n'y plus rentrer. Puis tout le monde était mort, la mère et les autres enfants, et la chaumine était devenue tout à fait une ruine. Depuis l'âge de 16 ans, Katsu court donc les routes, couchant au creux des meules, s'y faisant un abri contre le froid et la pluie. Elle est devenue une vraie bête sauvage. Lorsqu'elle se rapproche des villages et des hameaux, c'est qu'elle y vient chercher quelque nourriture. La faim chasse le loup du bois. Katsu vit au hasard, mangeant les croûtes qu'on lui jette, buvant de l'eau-de-vie avec les sous qu'elle obtient à la porte des églises le dimanche ou les jours de marché sur les places des villages. On lui donne pour se débarrasser d'elle, de sa saleté, de sa vermine. Elle avait été, elle était encore, une prostituée de grande route pour les paysans alcooliques et vicieux, mais devenue de plus en plus un objet d'horreur, vivant seule ou avec ses pareils, des vagabonds, des gens qui passaient, venant on ne sait d'où, et qui disparaissaient comme ils étaient venus, terribles inconnus de la vie, errants de l'espace, exilés de partout. Elle a subi les outrages des saisons, vêtue de tristes vêtements, traînant des savates trouées, vêtue d'une jupe et d'un caraco en guenilles. Le visage, noir de poussière, tour à tour animé et abruti par l'eau-de-vie, est troué par deux yeux jaunes qui flambent comme des yeux d'animal le soir. Elle porte un sac avec elle, son armoire à glace, dit-elle. Dedans, des croûtes de pain, des nippes informes. Elle s'assoit par terre contre un mur, fouille dans son sac, en sort des vieux souliers, des ustensiles cassés ramassés sur les tas d'ordures. Ce sont des cadeaux qu'elle distribue ou des valeurs qu'elle échange. Elle les donne à plus pauvres qu'elle ou les troque pour quelques pommes ou un verre de cidre. On la connaît à 10 lieues à la ronde. Les gendarmes ferment les yeux quand ils la rencontrent. Elle vit donc en toute liberté. Chacun a son métier, et chaque métier a ses ennuis. Katsu a dû supporter sa part de malheur et de soucis. Les gredins qui parcourent aussi les routes, et qui ne pouvaient rien avoir d'elle que son misérable corps, la terrorisaient et la violaient quand le grand silence de la nuit endormait la campagne, et que l'on ne voyait briller au loin, çà et là, que les lumières des maisons bien fermées. « Ils sont des brigands !» disait Katsu. « Pire que des voleurs !» De cela, elle ne voulait pas, parce qu'elle ne les connaissait pas. Elle eut un couteau dans sa poche pour se défendre. Un soir d'été, qu'elle dormait à poing fermé sous le toit de paille d'une meule, des vagabonds vinrent se réfugier auprès d'elle.
« Une femelle !» dit l'un. « Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis du pays. J'ai le droit de coucher où bon me semble. »« Ce qu'on va rigoler !» assura un autre.
« Tu ne rigoleras pas longtemps, toi. Approche. Je sais me défendre. »«
Défends-toi donc, punaise !»
Elle se défendit, non comme une punaise, mais comme une tigresse. Elle tapa dans le tas. Il y eut du sang versé. La nuit aidant, Katsu échappa à ses agresseurs. Ils crurent la voir se sauver à travers champs et se précipitèrent à la poursuite de cette ombre, pendant que Katsu grimpait comme un chat jusqu'au faîte de la meule. Au petit jour, un paysan trouva un blessé évanoui dans le champ. Katsu sortit sa tête de la paille. La vagabonde ne fut pas inquiétée pour le coup de couteau qu'elle avait donné en état de légitime défense, mais elle fit 2 mois de prison pour vagabondage. Elle pleura, disant qu'elle allait être déshonorée, tomba malade, fit son temps à l'infirmerie de la prison. « Sors de l'hôpital !» dit-elle aux gens charitables, ses clients qui lui demandaient la raison de son absence. Souvent, Hermine avait fait entrer cette malheureuse chez elle pour lui donner quelque nourriture et des vêtements. À chaque fois qu'elle l'avait revue, elle avait constaté chez la misérable Katsu une déchéance nouvelle. « Pourquoi ne cherchez-vous pas du travail ?» lui disait-elle. « Ce n'est pas une existence que la vôtre. « Je travaillerai l'été qui vient, » répondait-elle en hiver. « Et en été, je chercherai de l'ouvrage l'hiver prochain. » Comme on l'interrogeait sur son enfance, « J'ai reçu plus de coups que de morceaux de pain. Mes frères et sœurs qui sont restés auprès de ma mère sont crevés de misère. C'est moi la plus heureuse. » Mais avec l'âge, la santé de Katsu s'est affaiblie. Son visage est livide, ses yeux sont enfoncés dans leurs orbites comme des yeux de cadavre. Elle tousse. La vermine l'a envahie. Sa chair habitée est un monde qu'elle laisse vivre avec indifférence. Plus jeune, elle allait à la rivière. Maintenant, elle fuit l'eau qu'elle trouve malsaine. Les gens s'éloignent d'elle. À peine ose-t-on lui tendre un morceau de pain. On a de la répugnance même à la voir. Les cheminots n'écoutent plus ses invites. Insouciante de sa destinée, elle rôde de village en village, elle traîne sa vie de bête traquée. Elle dort toujours au pied des meules, et aussi à l'angle des portes, contre le mur des églises, sur les tas de pierres ou dans les lavoirs. Elle ne se souvient plus de ce que c'est qu'une maison, un foyer, un lit. Elle est l'animal errant.
Oh, elle est de sa faute, disent les gens.
Katsu ne comprend pas bien pourquoi elle n'a pas en elle l'instinct du travail, de l'économie, du devoir. Si elle avait eu tout cela, elle serait pareille aux autres femmes qui triment, soignent leurs maris, élèvent leurs mioches, tiennent leur rang dans la société. Mais l'absence de toute lumière chez cette ignorante est-elle plus une faute que la pauvreté et l'infirmité? Elle ne fait souffrir qu'elle seule, et ce n'est pas le morceau de pain et le sou qu'on lui jette qui doivent donner aux charitables le droit d'être des juges aux arrêts cruels et inexorables. Le chien errant a faim, comme le chien a la tâche. Il y a plus de travailleurs que de cheminots, mais souvent ceux-là sont aussi maltraités que ceux-ci. Voilà ce que répondrait Katsu. Mais Katsu ne sait pas ou ne veut pas répondre.